Bonjour Magali Lafourcade.
Bonjour, merci.
Alors, cet AG se tient en effet à un moment très particulier. Jean-Baptiste l'a dit. L'action humanitaire en particulier, mais la solidarité internationale en général sont particulièrement touchées par le duo et puis par les décisions prises de l'autre côté de l'Atlantique, mais pas seulement. C'est vrai que la quasi-dissolution de USAID, l'agence de coopération américaine, a provoqué l'arrêt brutal de 92% des projets qu'elle soutenait. Cette décision, elle s'inscrit dans une remise en question profonde de l'aide publique au développement. L'Europe suit quand elle n'a pas devancé déjà cette tendance au repli. Je rappelle que la France avait déjà annoncé dès 2024 une réduction de 35% de son budget d'aide pour cette année. Et différents États européens ont suivi, hein, de la Suisse aux Pays-Bas, en passant par le Royaume-Uni, la Belgique, qui se sont engagés dans de semblables réductions, souvent pour soutenir leur réarmement. Notre grand souci actuellement, c'est ce que les ONG vivent. D'abord, c'est un bouleversement complet de l'architecture de l'aide sur laquelle elles s'appuyaient depuis des décennies. Un effet papillon qui se fait ressentir, hein, qui de décisions abruptes prises à Washington et ailleurs produit ses conséquences partout dans le monde, qui jette des structures d'aide au bord du décrochage, qui les incite déjà à des mesures de chômage et à des fermetures de programmes. Et au bout de cette chaîne, évidemment, surtout, ce sont les populations les plus vulnérables, sur la planète qui sont déjà impactées dans leur accès aux soins, à la nourriture, et parfois même à leur survie. Alors il nous faut faire front commun, trouver les moyens de réagir à ce qui s'apparente à une offensive globale contre la solidarité internationale. C'est tout le sens de votre présence aujourd'hui, Magali. La CNCDH, c'est une belle institution, une institution de la République, comme on dit, créée il y a près de 80 ans par un grand juriste, René Cassin. C'est une institution collégiale qui assure en toute indépendance un rôle de conseil et de proposition auprès du gouvernement et du Parlement dans le domaine des droits de l'homme, mais pas seulement, aussi du droit international humanitaire et de l'action humanitaire. Elle compte des représentants d'organisations non gouvernementales et des personnes dites qualifiées, donc certaines qui font partie de la revue, de notre écosystème, on les connaît bien. Annelise Virville est là. Je pense aussi à Pierre Michelletti, qui est membre de la CNCDH. Voilà, je ne vais pas m'amuser à tous les citer. Mais on est en terrain de connaissance et en même temps, on ne connaît peut-être pas si bien que ça la CNCDH. Donc, ce sera peut-être, chemin faisant, l'occasion pour vous de nous en dire un petit peu plus. Voilà, 30 minutes de discussion ensemble, Magali, et puis on ouvrira le dialogue avec les personnes qui nous écoutent et que l'on remercie déjà de leur présence. Donc on aura trois temps de discussion. En gros, un diagnostic, réaction et perspective. Et ben on va commencer tout de suite par le diagnostic. Je le disais, nous on fait le diagnostic d'une offensive anti-solidarité internationale. Parce que c'est vrai que si l'on se focalise et a raison sur les enjeux de financement, on observe qu'ils accompagnent une montée en puissance d'un discours de dénigrement des acteurs. Pas seulement de l'humanitaire, mais aussi des droits de l'homme, de l'environnement, même des syndicalistes, une remise en cause de l'état de droit et des contre-pouvoirs. Est-ce que vous aussi, en tant que secrétaire général de la CNCDH, mais au sein de la CNCDH en général, vous interprétez ce mouvement de cette manière également?
Oui, tout à fait. En fait, donc déjà, je voudrais vous remercier pour votre invitation et saluer tous les membres de la CNCDH que j'ai pu voir. Il y a Christian Laval, il y a Marie-Molle Yazid, Annelise Virville, bien sûr. Mais donc, voilà, je voulais les saluer et vous dire effectivement que le but aujourd'hui, moi, je viens plutôt des droits de l'homme. Hein, donc, le but, c'est, même si la CNCDH, elle a ses deux dimensions, Commission nationale de mise en œuvre du DIH et Institution nationale de Commission nationale de mise en œuvre du DH et Institution nationale des droits de l'homme au sens des Nations unies, c'est-à-dire qu'on a aussi une mission de contrôle du respect par la France de ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme. Je voudrais vous montrer à quel point on partage les mêmes préoccupations et prendre notre diagnostic à nous. Droit de l'hommiste, hein. J'utilise ce mot qui est une invective en France, mais je l'utilise à dessein parce que défenseur des droits de l'homme, c'est un peu long. Mais ce que je pense, c'est que c'est pas seulement les acteurs, c'est qu'il y a aussi un changement de paradigme qui est en cours. Déjà, donc sur votre domaine, autour des questions humanitaires, on voit bien que de l'époque Truman, où c'était l'idée, c'était réduire les inégalités pour pouvoir asseoir la paix, on voit qu'aujourd'hui, on a complètement changé de narratif avec l'idée que bah, ça fait du bien aux entreprises qui bénéficient en fait dans les pays concernés. Donc c'est une approche pro-business, et puis après, ça a été une approche de lutte contre l'immigration illégale, et ensuite, maintenant même, un moyen de pression pour des politiques de sécurité, voire de réadmission des personnes sans papier. Donc on voit bien comment le narratif évolue et aujourd'hui, il y a l'espace de la critique n'est donné qu'à l'extrême droite. Il faut investir ce champ-là pour expliquer l'importance à la source de l'aide publique au développement. Qu'est-ce qu'on y met? Puisque comme vous l'avez dit, ça n'est pas que USAID, c'est aussi les Européens qui avaient ouvert le bal. Et donc, cette remise en cause, on voit bien aussi les justificatifs de l'AFD qui sont parfois un peu surprenants. Donc, il faut investir ce champ de l'analyse des raisons profondes de pourquoi on fait de la solidarité internationale. Et alors ensuite, sur le champ des droits de l'homme, donc nous, on a vraiment le sentiment que la tendance est à l'illibéralisme. Alors si on prend juste pour brosser à gros traits les caractéristiques des démocraties libérales, c'est d'abord porter atteinte à la séparation des pouvoirs. Je veux dire, là, en France, on est en plein dedans. Je pense que on voit bien les attaques qui sont faites au judiciaire. Donc, bien sûr, je sais que les humanitaires risquent leur peau hein, quand ils vont sur le terrain. Mais aujourd'hui, il y a aussi des environnementalistes qui sont assassinés dans le monde. Parmi les défenseurs des droits humains, les défenseurs de l'environnement sont ceux qui sont le plus dénigrés, menacés, assassinés. Et on voit aussi donc des attaques en règle contre les juges. Bénédicte de Pertuis, qui a rendu la décision lundi sur Marine Le Pen, elle a été menacée de mort par des gens qui sont très très crédibles, hein, parce qu'on côtoie une criminalité quand même très organisée, et elle est sous protection policière comme de 150 autres magistrats aujourd'hui. Donc c'est une évolution qui est quand même très inquiétante. Donc les attaques aussi vis-à-vis de l'indépendance de la justice. Et puis il y a tout ce qui concerne la presse, qui est un quatrième pouvoir, hein, qui peut être extrêmement efficace pour pouvoir contrer un certain nombre de difficultés. Et là, on voit aussi que dans le monde de la presse, il y a eu des effets d'organisation. Et donc, je crois qu'il faut casser un peu les silos pour voir comment on peut travailler ensemble. Et vous vous souvenez de cette journaliste maltaise hein, qui a été assassinée. Et derrière, il y a eu une organisation en Europe pour pouvoir sortir les Panama Papers et pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'effet Streisand. On y reviendra peut-être plus tard. Mais donc la liberté de la presse, la concentration des médias, c'est un sujet. Il y a des discussions, j'ai eu des discussions avec Mediapart, notamment sur comment ils organisent le Fonds pour une presse libre et comment ils veulent se sécuriser en cas d'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Donc, il y a déjà ces pensées-là. Donc, c'est pour vous dire, tout le monde, dans son domaine, réfléchit à ces aspects-là. Et puis, il y a le shrinking space, donc l'espace dévolu à la société civile, qui est un vrai enjeu. Donc, je vous ai parlé des défenseurs de l'environnement. Mais il faut savoir que, par exemple, en France, on utilise des techniques de l'antiterrorisme pour aller au petit matin taper, comme on dit, c'est-à-dire procéder aux interpellations de militants pacifistes qui ont vraiment commis des dégradations, par exemple chez un cimentier bien connu. Donc on voit la rhétorique de dénigrement autour des éco-terroristes, des Khmers verts, des totalitaristes écolos, qui en fait a des prolongements dans l'action publique avec l'usage des méthodes de l'antiterrorisme. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que donc il y avait dans les explications qui sont apportées, l'idée que ben, l'aide au développement apportée par l'AFD était bénéficiée aux entreprises françaises. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on motive le paradigme de l'aide au développement autour d'une approche pro-business qui peut s'entendre. C'est juste que d'autres utilisent souvent l'extrême droite, l'idée que c'est plutôt pour pouvoir obtenir de la réadmission ou limiter l'immigration. Donc, en fait, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une réflexion qui vienne de vous, des humanitaires, sur quelles sont les raisons profondes d'efficacité de l'aide humanitaire pour pas laisser ce champ-là seulement à ceux qui attaquent. Vous avez bien vu Sarah Knafo qui a fait une campagne extrêmement offensive, très mensongère, autour des fonds alloués par l'AFD, qui sont des prêts en fait, hein, à la Chine, etc. Et donc, laisser ce champ que à ces personnes-là qui sont très malhonnêtes et dangereux. Je pense qu'il faut revenir aux raisons d'efficacité, pourquoi on fait de la solidarité internationale, quels sont éventuellement les bénéfices secondaires, mais pas avoir seulement une approche pro-business.
Okay. Merci Magali. Alors justement, il y avait une remarque intéressante qui allait dans le sens de la question que je vous posais avant qu'on soit interrompu. Question de Pierre-Alexandre d'ACF. La CNCDH serait en cours de rédaction d'un avis sur la restriction de l'espace civique. Est-ce que c'est l'espace civique, j'imagine, français? Est-ce que c'est le cas?
Oui, en fait, donc nous, on travaille sur la France, hein, c'est vraiment notre objet. On est l'institution nationale française, mais on interpelle, on a un lien très étroit avec le ministre des Affaires étrangères et on l'interpelle aussi dans sa diplomatie. Donc, on le fait dans sa diplomatie vis-à-vis de l'humanitaire, vis-à-vis de la Cour pénale internationale, vis-à-vis de tout un tas de champs, mais aussi dans son approche au sein de l'Union européenne, puisque donc la France a une diplomatie très très forte au sein de l'UE, et donc on travaille beaucoup notamment sur la responsabilité sociétale des entreprises, la directive Omnibus qui nous inquiète beaucoup. On a ce mandat-là parce que on a donc tout le champ des droits de l'homme, mais on a des mandats thématiques comme entreprises et droits de l'homme, les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, qui évidemment touchent aussi un certain nombre de sujets qui concernent les humanitaires qui sont sur le terrain, ceux qui font du développement et bien sûr les environnementalistes.
D'accord.
Mais sur l'approche en silo que vous disiez, Boris, nous, les droits de l'hommiste, on s'est quand même énormément rapprochés des environnementalistes. C'est-à-dire qu'avant, on était quand même deux mondes assez éloignés. Sûrement, les environnementalistes nous voyaient comme très centrés sur la petite personne de l'être humain, sans voir l'écosystème autour. Et ils avaient un langage qui n'était pas tout à fait le nôtre, puisqu'ils avaient souvent un langage autour de l'acidité des océans, la température, etc. Depuis que le Conseil des droits de l'homme, puis ensuite l'Assemblée générale des Nations unies, ont fait du droit à un environnement sain un droit de l'homme au sens de, avec toutes les caractéristiques des droits de l'homme, ces deux mondes se sont vraiment rapprochés. Le rapprochement avait eu lieu avant, mais ça s'est vraiment concrétisé. Ce qui fait que c'est un double effet. D'abord, on parle maintenant un langage commun d'approche par les droits. Quand les environnementalistes défendent une forêt, ils défendent aussi la population qui est autour. On a compris qu'on ne pouvait pas être en bonne santé, nous humains, sur une planète malade. Et on a du coup une relecture du corpus des droits de l'homme sous un angle beaucoup plus collectif, beaucoup plus citoyen, qui est plus proche finalement de la lecture française de l'époque des droits de l'homme et du citoyen, donc l'être humain dans la cité, que de l'approche anglo-saxonne autour des droits individuels et des droits par des groupes. Et donc, cette lecture plus collective emprunte aussi à des notions qui sont à la fois anciennes et issues d'autres traditions, autour du public trust, autour des biens communs, du patrimoine commun. Et donc, on commence à se retrouver avec une base langagière assez commune. Donc déjà, quand des groupes parlent la même langue, c'est bien. Et puis, ça va au-delà. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à avoir aussi les mêmes instruments pour se protéger les uns les autres. J'étais à Genève il y a quelques semaines et j'étais à une réunion où il y avait deux rapporteurs spéciaux, le rapporteur spécial sur les défenseurs de l'environnement, donc Michel Forst, et puis la rapporteure spéciale sur l'environnement sain. Donc ce sont deux mondes qui sont assez éloignés et qui avaient des ponts entre eux qui étaient extrêmement précieux et ils voyaient toutes les actions communes pour pouvoir polliniser, c'était vraiment ce qu'ils disaient, tous les endroits et pouvoir utiliser les leviers des droits de l'homme qui sont très anciens pour protéger les droits de l'hommiste, pour pouvoir les étendre à ceux qui sont des environnementalistes. Je pense effectivement à la Convention Aarhus et au mécanisme d'urgence pour libérer les environnementalistes, par exemple.
Bon, on est en plein déjà dans le deuxième temps de la discussion. C'est bien, on a évolué naturellement. Je vois toujours. Alors, je voyais deux choses sur le fil de discussion, des choses très intéressantes, à savoir que, un, à Coordination Sud, il y a une task force sur le narratif sur l'aide publique au développement. Ça, c'est Pierre-Alexandre qui est très présent sur le. Voilà, donc je te recite Pierre. Et puis, tu nous dis, l'Élysée propose aux ONG de changer de narratif et davantage parler de construire la paix, rayonnement de la France, etc. Alors, c'est très intéressant, effectivement, changer de narratif, mais là, est-ce que, un, on va pas. Est-ce qu'on n'est pas dans une. Pardon, hein, mais dans une espèce de captation, ou en tout cas une prise de pouvoir quand même de l'État qui nous dit maintenant, voilà, dans cette situation, voilà comment il faudrait fonctionner. Est-ce que là, il n'y a pas un risque, d'une certaine manière, de voir les ONG, que les choses leur échappent?
Instrumentaliser. Ouais, moi je crois qu'il faut que la discussion elle vienne de vous. Vous la mettiez en scène. Moi je crois qu'il serait essentiel qu'on crée une initiative commune. Donc je suis désolée Maurice, du coup je vais dans le troisième point
C'est très
peut-être.
bien.
Je crois qu'il faudrait que les droits de l'hommiste, les environnementalistes, les acteurs du développement, les acteurs urgentistes de l'humanitaire, on arrive beaucoup mieux à se parler.
On était sur les perspectives, moi, pour accompagner un petit peu cette troisième partie, Magali. Moi, j'avais deux questions qui me venaient à l'esprit. C'est un. Est-ce que le milieu de la solidarité internationale, hein, tous ensemble, on est finalement aussi fort qu'on l'espère pour résister à ce rouleau compresseur? Ça, c'est la première chose, hein, parce que je crois qu'on s'est souvent cru beaucoup plus puissant qu'on ne l'était. Et ce qui s'exprime là maintenant, c'est qu'on est quand même peut-être des géants au pied d'argile. Voilà, c'est la première chose. Est-ce qu'on est assez fort? Deuxièmement, c'est comment embarquer le grand public? Parce que je crois que la solution aussi, elle est là, parce que moi, je suis assez troublé, et je suis pas le seul, par le fait que toutes ces questions-là, USAID, l'APD, etc., alors nous, on est complètement dedans, mais si on en parle avec des gens qui ne sont pas du tout dans le secteur, les gens de la rue, comme on dit de manière méprisante dans les médias, vraiment, ça n'a pas atteint ce grand public-là. Or, c'est ce grand public-là qui donne aux ONG, c'est ce grand public-là qui vote, qui a un poids politique et qui pourrait soutenir le secteur. Voilà ces deux questions que je voulais intégrer peut-être dans votre réponse, Magali, à venir.
Oui, alors, ce que je crois qu'on ne peut pas savoir si on est fort, puissant, etc. Ce sera, là, on vit un choc. On vit un choc, on a été sidéré, maintenant on digère le choc. Le choc n'est pas forcément la fin de l'histoire, puisque n'oublions pas quand même que dans moins de 2 ans, il y a des élections aux États-Unis et qu'il n'est pas exclu que Donald Trump ait tellement fait du mal à l'économie, à la société américaine, qu'il perde. Il n'est pas si large que ça quand même au Congrès. Donc voilà, ça c'est pour les États-Unis. Moi, je crois qu'il faut déjà se poser les choses en creux. C'est-à-dire que on a une stratégie d'emmerdification, c'est la théorie de Steve Bannon, pour pouvoir faire des annonces tout le temps qui nous sidèrent les uns les autres. Il faut arrêter de réagir à tout ça pour pouvoir se concentrer sur nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que là, en fait, ça tue notre énergie et ça tue notre volonté. Il faut maintenant plutôt se recentrer sur quel est le message qu'on veut porter. Donc, je pense qu'en creux, il ne faut pas s'épuiser. Non plus à discuter avec les mouvements anti-droits. Parce que eux utilisent notre langue, nos valeurs, ils les retournent tous contre nous. On voit aujourd'hui comment on retourne la question de l'état de droit, la liberté d'expression, tout est à front renversé. Donc je crois qu'il faut rester dans quel est le message que nous on veut délivrer plutôt que de vouloir répondre ou discuter avec ces gens-là qui vont finalement nous tuer à petit feu et nous épuiser. Je crois qu'il y a quand même une attitude qui est ultra nécessaire, c'est l'obstination. Il faut s'entêter dans cette période. Des chocs, on en a connu d'autres. on en connaîtra encore. Et pour autant, on sera d'autant plus fort qu'on se dit, bon, bah voilà, on a assimilé le fait qu'il y a un choc terrible et maintenant on s'obstine. Alors après, il faut voir quelles sont les pistes, les solutions. Je crois que déjà, ce que vous faites, Boris, aujourd'hui, et Jean-Baptiste, de vouloir créer des ponts avec ceux qui sont l'objet de la même attaque, c'est essentiel. Parce qu'on a tous des outils qui marchent plus ou moins bien. Nous, par exemple, dans les droits de l'homme, on utilise énormément le contentieux stratégique. On va devant la Cour européenne des droits de l'homme, on va devant le Conseil constitutionnel, on utilise énormément ces techniques judiciaires. C'est-à-dire que le juge, bon, je dis pas ça parce que je suis magistrate, mais le juge est quand même le contre-pouvoir. On voit aux États-Unis à quel point le juge est mobilisé. Après, le juge se révèle aussi fragile. Ça renvoie à la question que vous disiez, est-ce qu'on est aussi solide que ça? En fait, même aux États-Unis, on ne sait pas dans quelle mesure les décisions de justice vont être respectées. Après, il y a la presse. Donc, il y a une concentration, il y a une presse qui est une presse d'opinion qui est atroce, mais il y a aussi une presse libre. Et cette presse libre, elle peut amplifier les messages et elle a tout à gagner à être une courroie de transmission de nos messages à nous. Je crois qu'il faut réfléchir au narratif, on en a parlé ensemble. Pour tous ceux qui ne sont pas sensibles à la question de l'être humain, qui en ont absolument rien à faire, qu'il y ait des gens qui meurent, etc., leur dire que ben, on a bien vu avec le Covid que en fait, on n'est pas immunisé contre les maladies qui se passent en Chine. Donc, il faut avoir une approche rationnelle, puisqu'on est tous liés. Parler aussi du coût de l'inaction, le fait de ne pas agir dans certaines situations. Pour les environnementalistes, c'est quelque chose de crucial. Ne pas agir, ça coûte une fortune. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient aussi se dire qu'elles gagneraient à avoir une stabilité économique, un état de droit qui fonctionne. Des juges ne sont pas trop attaqués parce que derrière, c'est le droit de propriété, leur réussite économique, leur prospérité qui passe par tous ces éléments de l'ordre libéral international qui prévalait depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a aussi des acteurs internationaux, des multinationales qui ne sont pas forcément nos alliés de prime abord, mais qui vont comprendre qu'elles ont intérêt à ce qu'il y ait une stabilité. Donc je crois qu'il faut mobiliser les contre-pouvoirs et qu'on se parle de nos contre-pouvoirs préférés, de nos stratégies qui fonctionnent. Et puis, il y a l'effet stressant. Je voulais en dire un mot, puisque c'est ce qu'a fait Case.eu. Donc après la mort de cette journaliste maltaise, un certain nombre d'acteurs se sont dit, bon, bah, il y a des procédures bâillons, il y a des menaces sur les journalistes, etc. On va choisir certains combats, pas tous. Mais sur certaines choses, on va y aller de manière très, très coordonnée pour donner une visibilité à ce qui avait voulu être silencié. Voilà. Et ça, je pense qu'on peut faire unir nos forces les uns les autres puisqu'on n'a pas les mêmes publics cibles. Et c'est là où on embarque l'opinion publique. Quand je vois les mouvements anti-droits qui se sont centrés sur les droits sexuels et reproductifs, la violence avec laquelle ils ont attaqué ça, avec la constance, la manière structurée aux États-Unis, mais aussi en France, quand on voit les attaques autour de l'enseignement sur la vie affective et sexuelle, et finalement, on a gagné la bataille. Donc ces petites minorités qui sont très structurées, très agissantes, la messe n'est pas dite, on peut tout à fait agir. Et puis, il y a quand même aussi, si on prend du recul, des facteurs, je trouve, qui nous donnent vraiment de l'espoir. C'est-à-dire que la CNCDH construit depuis 1990 un baromètre de l'état de la tolérance en France. Et je peux vous dire qu'on sait exactement ce qui permet d'augmenter la tolérance et qu'on est dans une société, quoi qu'en disent CNews, qui est de plus en plus ouverte, qui est de plus en plus fraternelle, qui est de plus en plus féministe, qui est ouverte aux minorités sexuelles et qui est de moins en moins raciste. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était la moitié des Français qui se disaient racistes antisémites et ils pensaient qu'il y avait des races humaines et qu'elles étaient hiérarchisées. Aujourd'hui, c'est 6%. Alors, c'est toujours trop. Et il y a des actes racistes. Mais la société elle-même s'ouvre. Ça, ce sont des socles, en fait. Le fait que les juges soient menacés, mais qui rendent des décisions qui déplaisent aux politiques, au point que maintenant les parlementaires veuillent revenir sur l'inéligibilité, au lieu de se dire que ce serait mieux d'avoir des élus probes. Voilà, tout ça montre que nos structures, elles fonctionnent. Donc on n'est pas aux États-Unis, on a des socles qui sont solides, et on a une société qui n'est pas archipélisée et qui ne se livre pas complètement aux passions tristes non plus. Je voudrais dire, c'est que je rejoins tout à fait le propos de Joël. Il me semble que c'est un choc qui est très profond. On est face à une crise politique et que face à ça, on est dans un grand mouvement populiste, souverainiste, avec des populismes, hein, parce que le populisme n'est pas une idéologie, c'est un vecteur, mais on est dans un mouvement d'illibéralisme. Face à ça, il y a des aspects très puissants dans notre société, où on n'est pas comme dans les années 30, on est instruit de l'histoire et surtout on a un État qui a une autre sociologie, on a des Français qui sont très engagés dans le tissu associatif, on a une ouverture et on sait comment faire progresser cette ouverture puisqu'on a les clés pour ça. Le baromètre de la CNCDH le montre avec des études très robustes qui datent de 1990 qui permettent de voir les évolutions. Donc moi, je suis assez convaincue que nous avons les moyens de pouvoir arriver à embarquer l'opinion publique. Et il faut ne pas faire l'économie de faire un travail de pensée, de réflexion. Et je crois qu'un des moyens pour pouvoir le faire, c'est de réfléchir à ces questions de mots qu'a soulevé Christian Laval, de liberté d'expression, de narratif. Et la CNCDH peut être le lieu de toute cette réflexion autour des convergences qu'on peut faire entre nous. Nous allons organiser le 4 novembre, qui est le jour anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme, des assises, hein, des droits de l'homme, où on va aussi parler des enjeux d'état de droit, des enjeux de minorité. Et c'est l'occasion aussi, et Annelise est co-rapporteur sur ce travail-là, c'est l'occasion peut-être de réfléchir ensemble aux convergences et à la façon de porter notre narratif. Nous, quelque chose qui fonctionne très très bien quand on veut faire bouger les autorités françaises, c'est de faire des stratégies internes-externes en mobilisant les acteurs des Nations Unies ou du Conseil de l'Europe. Il faut qu'on partage ce genre de bonnes pratiques où on sait que nous on obtient des résultats, pas sur tout, pas sur le cœur du régalien, mais sur plein d'autres droits. On a obtenu des changements avec l'ATD Quart Monde, on a mené des batailles et on a obtenu des changements avec le secteur du handicap aussi. Donc tous ces succès-là, ça donne des prises pour l'espoir et je crois qu'il faut justement qu'on se raconte nos techniques, à la fois d'un point de vue narratif, intellectuel et donc créer de la pensée, mais aussi on se donne nos pistes d'espoir et nos pistes concrètes. Donc c'est casser ces silos. Ça veut pas dire qu'on va se mettre à faire la même chose, bien sûr, mais trouver les points de convergence et puis mener cette réflexion par rapport à cette crise politique, parce que les gens sont toujours les mêmes. Ce sont des gens qui sont ouverts et qui sont, même si il y a un récit qui est fait dans l'espace médiatique et politique, ça ne reflète pas ce que sont les gens fondamentalement. Et quand ils sont ambivalents, on a moyen de faire émerger la part plutôt lumineuse des personnes face aux patients tristes. Ce sera un peu ma conclusion et j'y crois profondément,
Formidable.
hein, je suis convaincue. Et j'ai juste
Merci.
une illustration. Depuis 2 jours, je fais des plateaux de télé sur Marine Le Pen et j'oppose un autre narratif à celui qui est construit et ça marche, ça fonctionne.